Et nous allons passer toute cette nouvelle semaine destination dans l'univers de l'apiculture. Nous allons découvrir ce métier jusqu'au pot de miel que l'on utilise peut-être à la maison, voire des dérivés du miel, puis c'est ce qui est fait également ici. Ici, c'est la Jonchère Saint-Maurice. Guillaume Gilbert qui est apiculteur ici, apiculteur depuis 2011 si je ne dis pas de bêtises.
Oui, exactement. À la Jonchère depuis 2011, sinon depuis 2006. J'aurais bien aimé avant, mais la passion, je l'ai eu tout petit. Et bon, bah les parents me disaient que...
C'était pas chaud autour des abeilles.
Non, c'est ça, ça pique. Donc, ce qui fait que ça a été repoussé jusqu'après mon cursus universitaire. Et de là, la passion est revenue très rapidement. Et puis, maintenant, bon, voilà, on essaie de vivre de cette belle passion. Donc en étant en bio, parce que moi des produits chimiques j'en ai eu assez sur les mains, parce que bon j'étais biochimiste avant, et ce qui fait que là c'est vraiment le respect du miel. Je veux pouvoir consommer ce produit sans me dire qu'est-ce qui a été mis dedans. Et donc ça a été aussi ça le choix de l'apiculture en mode biologique.
Alors, c'est le respect du miel mais aussi des abeilles, on respecte la nature parce qu'elle est au cœur évidemment du fonctionnement et de cette chaîne de fabrication du miel.
Oui voilà, c'est vrai que c'est un métier où on est avec l'insecte, avec le climat, avec la nature, avec la flore. Donc c'est un tout, c'est très intense sur quelques mois où faut tout donner. Une cohésion, une très grande cohésion avec la nature.
Alors pourquoi ce choix de la Jonchère Saint-Maurice ?
C'est parce que de l'autre côté là, de cette montagne qu'on voit, il y a déjà assez d'apiculteurs et donc ce qui fait que les collègues, bon, je les ai laissés de leur côté. Ce côté-ci, il y avait très peu de monde, voire personne. Donc ça a été aussi ça le choix de la Jonchère.
On parlera des différents types de miel, mais là on vient de dire montagne par exemple. Ça peut surprendre quand on évoque la Jonchère et la Haute-Vienne, mais on est sur un miel de montagne ici.
Oui, en fait, les apiculteurs qui ont un miel à dénomination montagne, c'est parce que leur siège social de l'exploitation est sur une zone montagne. Donc au niveau de la DDT, au niveau de la chambre d'agriculture, la Jonchère est sur une zone montagne. Il doit y avoir aussi Saint-Léger-la-Montagne et Jabraille, les Bordes. Ben, sinon ici on est en zone de Piémont, bien sûr, Piémont du Massif Central. Et là, ici c'est le puits de Sauvagnac qui nous sauve, quoi. Et puis bon, après, voilà, ça donne... petite dénomination que les autres n'ont pas le droit d'utiliser, quoi.
Donc ça, c'est plutôt pas sympa pour se démarquer. Alors les ruches, évidemment, nos amis n'ont pas l'image, mais elles sont autour de nous, elles sont extrêmement nombreuses. On en a combien et sur quelle superficie?
Alors les ruches, là, on tourne entre, on va dire, entre 250 et 300 colonies. De la Jonchère Saint-Maurice, à descendre jusque le Torion. Et après, bon voilà, sur Sauvia, sur Bourganeuf, il y a déjà des collègues. Donc moi, je suis sur la zone qui est vraiment qui est entre deux.
Il y a aussi différents types d'abeilles, des écotypes, on les appelle comme ça, pour pas dire race.
Oui, c'est ça. Bon, le mot race me déplaît, donc vraiment des écotypes, puisque c'est de la Lapis mellifera, dans tous les cas, qui est utilisée en France, en Europe. Après, oui, différents écotypes, donc ce sera aussi bien là, de la carnica, on peut avoir de la buckfast, on va aussi avoir de l'italienne, de la caucasienne, donc de la noire. Donc on a tous ces écotypes. Après, voilà, y a une apiculture par apiculteur, donc c'est à trouver vraiment son abeille par rapport à son environnement, par rapport à sa technicité, et donc... Donc voilà, il n'y a pas un écotype à recommander, c'est vraiment de faire son choix par soi-même.
Et pourquoi votre choix à vous ?
Alors la carnica, parce que je travaillais avec Henri Renson en Belgique. Donc c'est une abeille qui est assez douce, qui gère ses provisions, qui a un bon développement. Bon ben voilà, moi je transpire énormément, donc j'ai pas envie d'aller habiller en cosmonaute. Donc comme vous le verrez demain sur les vaches des rennes, le fait de ne pas s'habiller, de pouvoir aller aux ruches sans, voilà, avec simplement un enfumeur, un lève-cadre, moi ça me va très bien, que ça puisse se développer, que ça puisse bien sortir de l'hiver, que ça puisse faire du miel et éviter justement en étant bio le sirotage, quoi, donc le nourrissement qu'en conventionnel, voilà, on est autorisé à faire, voilà, en agriculture biologique on est très limité à ce niveau là donc
ça, c'est ce qu'on met dans les cadres pour commencer à activer un petit peu la machine.
Ouais, ça sera alors le nourrissement, donc c'est un terme vraiment typiquement apicole. Donc c'est le fait d'apporter une nourriture à la colonie. donc en fonction normalement des besoins. Donc là ici en bio, ça sera, on privilégie d'abord le miel. Et après ça, si vraiment on n'a pas de miel, un nourrissement à base de sucre, de betterave ou de canne biologique. Après, bon voilà, en conventionnel, c'est du sirop de glucose ou de fructose, du sirop pâtissier. Hein. Et il n'y a pas de gestion au niveau du timing. Ils ne sont pas réglementés en fonction quand peut-on le mettre ou ne pas le mettre. Donc c'est vrai que bon, en bio, il faut demander soit des dérogations, on a vraiment un peu plus de contraintes, en tout cas de suivre le développement de la colonie pour dire bon bah voilà, il faut vraiment lui apporter quelque chose parce que là la colonie est sur le point de mourir.
Donc ça veut dire que c'est un métier extrêmement technique, à plus forte raison en bio.
Oui, il y a eu, si on part du début de l'œuf pondu par la maman de la colonie jusqu'au pot de miel, il s'en est passé plein de choses.
Voilà. C'est ce qu'on aura l'occasion de découvrir tout au long de la semaine, et notamment demain, peut-être dans une des parties les plus méconnues, ce travail d'élevage de rennes, d'essaims que l'on va découvrir ici, donc dans notre prochain épisode. Notre deuxième rendez-vous de découverte cette semaine du métier de l'apiculteur et de l'univers de l'apiculture. Nous sommes toujours avec Guillaume Gilbert, installé à la Jonchère Saint-Maurice depuis 2011. On va s'intéresser au vif du sujet. Alors en l'occurrence, avant de parler de récolte de miel, parce que c'est l'image que tout le monde a évidemment en tête, on récolte le miel, on met ça en pot, mais avant ça, il y a beaucoup de travail, et notamment pour Guillaume, puisque vous faites également l'élevage de rennes et d'essaims. Justement là, on va procéder dans un instant à ce qu'on appelle la capture des rennes, c'est ça? Elles sont derrière nous, donc dans des petites boîtes, vous nous faites les explications, les présentations.
Ah oui, alors ces petites boîtes, c'est ce qu'on appelle des nucléis. Donc ça signifie noyau. Donc là, il y a l'équivalent d'une poignée d'abeilles qui permettent justement au moment d'introduire une cellule royale.
Donc ça, c'est une petite capsule qu'on voit là.
Qu'on a élevée auparavant. Donc on attrape une larve et on l'introduit dans cette cupule. Le tout est mis dans une ruche orpheline, et 10 jours après, on les introduit dans les nucléides dans le but de d'avoir la naissance de la reine. Au départ vierge, la reine sera, on va dire, mise dehors par les ouvrières pour justement faire son ou ses vols de fécondation, revenir dans le nucléide, commencer à pondre, et à partir de là, le but c'est de vérifier si la ponte est correcte, si tout se passe bien, et on capture la reine, donc c'est-à-dire qu'on l'introduit dans une petite cagette avec des accompagnatrices. Donc ce qui fait que le lendemain, j'y remets une nouvelle cellule royale pour relancer un cycle au niveau du nucléide.
On va passer dans un instant à l'enfumage, mais simplement vous me disiez, on parle beaucoup de reines, c'est un terme qui revient souvent quand on parle des abeilles, vous parleriez presque plutôt de maman.
Oui, parce que la ruche c'est une démocratie, donc ce qu'on appelle la reine, plutôt la maman, ne fait que pondre, que ce soit sur le choix au niveau des mâles, au niveau des ouvrières, se fait vraiment au niveau du peuple, de la colonie. Et la maman ne sert dans ces cas-là qu'à pondre, puisque ne serait-ce qu'au niveau de l'essaimage, c'est pas la maman qui décide de partir, c'est vraiment un phénomène de masse, la maison est trop petite, donc on emporte la maman avec, et puis on prend une partie de la population, on s'en va, et le reste de la population restante va décréter d'élever une ou plusieurs nouvelles reines. Donc là, comme quoi, on est vraiment sur une démocratie. Il y a un peuple global, que ce soit avec les faux bourdons, les ouvrières et la reine.
Donc effectivement, des idées reçues à abattre. Alors là, on va passer à la phase d'enfumage. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on a mis dans cet enfumoir?
Dans l'enfumoir, c'est de la jute avec des graines de luzerne. Donc après, luzerne, si on est dans la région PACA, on sera sur du lavandin. Tout fonctionne à partir du moment où c'est une fumée blanche et froide. Parce qu'une fumée chaude, ça risque de leur brûler les ailes.
Donc là, le principe, c'est...
Le but, c'est d'ouvrir le nucléide, de chercher la reine. Et à partir de là, de capturer à la main la reine, de pouvoir le mettre dans une cagette plastique. Et après, de lui mettre 6-7 accompagnatrices afin de lui garder aussi la chaleur et de pouvoir aussi la nourrir.
Je précise, parce qu'on n'a pas l'image, que nous sommes en tenue tout à fait classique, pas de combinaison, ça veut dire que c'est pas obligatoire, ou c'est une question d'habitude?
Non, le but c'est de travailler avec des abeilles qui sont assez cool. parce que j'aime pas m'habiller en cosmonaute.
Donc, dites-leur que je suis sympa aussi, donc. Hein.
Après, il y a des journées avec, des journées où l'orage sur certaines mêlées où elles sont un petit peu plus agacées. Donc, bien sûr, là, le voile, c'est surtout au niveau protection, au niveau de la figure, puisque bon, les piqûres au niveau des yeux, on risque la cécité. Mais sinon, non, voilà, dans la plupart des cas, j'aime bien y aller, aller aux ruches en t-shirt et puis c'est à moi aussi de faire attention.
Avec le bon geste, et ben on va y aller, donc on va assister à cette démonstration, donc on va enfumer.
L'enfumage, ça sert simplement au cas où s'il se passe quelque chose, ça sert de sonnette. Donc c'est comme nous, quelqu'un arrive à la maison, on aime bien qu'on sonne avant d'ouvrir la porte. Et là c'est pareil, ça les apaise et ça les fait un petit peu descendre si elles sont un peu agacées.
Il n'y a plus qu'à.
Voilà, ici on la voit, la reine là. Juste là.
Ah, effectivement.
Et elle est même en train de pondre, elle a un œuf au bout de son abdomen. Vous le voyez ?
Exact.
Regardez. Hop là.
Elle vient de le déposer.
Et l'œuf, elle vient d'être déposé. Les ouvrières vont s'en occuper et après elle décide s'il y aura fécondation ou pas. Donc voilà, là on est vraiment sur le monde. La pure démocratie.
Ouais.
Là sur le côté, on peut voir à côté des œufs, on voit du pollen, ce qu'on appelle communément du pollen, mais c'est du pain d'abeille. Donc c'est du pollen qui a été récolté, mis dans les alvéoles, qui va servir à nourrir les différentes larves.
Et donc là, le but, ça va être d'extraire effectivement la reine.
Je saisis la reine.
Donc il y a un geste technique aussi, parce qu'il y a une fragilité aussi de ces abeilles.
Oui, en fait, là, la reine, vraiment une partie qui est dure, un peu comme du bois, sur le thorax. Hein. Donc la capture se fait au niveau de l'abdomen. Vous pouvez le prendre ?
Ça va aller.
Non, ça va aller. Aucun risque. Elle ne pique pas.
Je vais la laisser tranquille. Voilà. Déjà, ils ont été sympathiques avec moi, donc voilà.
Donc voilà. Là, il y a une demande de clipage. Donc comme les poules, on coupe un bout de l'aile pour éviter qu'au niveau de l'essaimage, donc elle ait plus de difficultés à partir. Et après, marquage, donc là on est sur une année 2016, donc 6, donc c'est un marquage blanc.
Ah oui, j'ai cru qu'il allait falloir marquer 6 dessus, ça allait être chaud. Hein.
Oui, non, il y a les pastilles, hein, toutes faites, hein, sinon.
Donc, on le teinte en blanc.
Voilà, donc on les met dans les cagettes. Là, elles vont partir chez le client, donc qui va lui l'introduire dans un essaim. Voilà, l'affaire est faite.
Bon, on va se donner rendez-vous dans notre prochain épisode pour passer à la phase de récolte de ce miel et voir ensuite tout ce que l'on peut en faire. Le temps pour l'instant de continuer de bosser un petit peu sur les nucléés parce que je crois qu'il en reste encore quelques-uns à traiter.
C'est ça.
Et notre troisième rendez-vous et épisode cette semaine, destination à la découverte de l'apiculture et de ce métier d'apiculteur. Nous sommes toujours en compagnie de Guillaume Gilbert, qui est installé à La Jonchère Saint-Maurice depuis 2011 et qui nous fait découvrir cet univers. Alors, beaucoup plus technique qu'on peut l'imaginer sans doute. Hein. On l'a vu hier avec ce travail de l'élevage de rennes, d'essaims. Alors, on va peut-être préciser une chose avant même de commencer, parce que je crois qu'on nous imagine, et on n'a pas l'image, mais en tenue de cosmonaute, bardée de protection. La réalité tout autre.
Oui, ben là, moi, actuellement, je suis en short et en t-shirt.
On n'a pas poussé jusqu'au tong, mais on n'était pas loin.
Oui, bon, il y a des serpents dans le Limousin.
Ça, c'est vraiment une idée préconçue du travail de l'apiculteur.
Bon, là, on est sur des belles journées, donc elles sont plus... elles sont occupées à autre chose qu'à venir autour de nous, en restant calme et avec une abeille qui est assez cool. Et voilà, il n'y a pas de risque. Hein.
Donc, on va attaquer le travail. On a vu, on a élevé ces rennes dans ces nucléides qu'on évoquait hier. Ensuite, ça a été transvasé dans ce qu'on appelle donc les osses. Là, ce sont quoi ? Ce sont les ruches, tout simplement ?
En fait, dans les nucléides, on a récupéré les rennes pour pouvoir constituer des essaims. Donc, ces essaims, après, se développent. L'essaim se porte sur 10 cadres. On pose des osses afin que le surplus de miel soit stocké dans les osses. Et après que la mielée est terminée, on vient récolter.
Et donc là, c'est un peu l'effet de surprise. On est juste à côté, donc on va dans un instant soulever le cadre et on ne sait jamais finalement vraiment à quoi s'attendre.
Oui, c'est ça, c'est un œuf de Pâques. Hein, donc on ne sait pas, soit il est vide ou soit il y a une belle surprise dedans. Bon, après, on s'en doute toujours plus ou moins de savoir après si ça sera une, deux ou trois os ou voire plus. Là, c'est vraiment la surprise. On espère tout le temps que tout soit rempli.
Évidemment. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez déjà fait une première étape de travail dès hier déjà.
Oui, c'est ça. Alors, généralement, une journée ou deux avant la récolte, je viens poser donc des chasse-abeilles entre le corps de ruche et les osses. Comme ça, les abeilles qui étaient contenues dans les osses redescendent dans le corps de ruche. Et normalement, bah, là, en ouvrant, pas besoin de souffleur. On va pouvoir charger tranquillement les osses sans aucune abeille dans le miel.
Voilà, il faut effectivement beaucoup de temps parce que il y a finalement une petite porte de sortie, elle passe une par une, donc il faut laisser vraiment le temps que un maximum d'abeilles, parce que ce sera peut-être pas le cas de toutes, mais un maximum ait eu le temps de sortir.
C'est ça, généralement il faut à peu près au minimum 12 heures, on va dire une grosse nuit, pour pouvoir vider vraiment les osses.
Et bien, on va vérifier ça donc tout de suite. On va donc soulever le cache donc qui va nous réserver sa petite surprise.
Donc c'est ça, on enlève le toit, le couvre-cadre et voici la osse remplie de miel.
Voilà, elles ont bien travaillé. Alors ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il y a des inégalités entre les cadres. On a des cadres, on a l'impression comme ça à l'œil, j'y connais pas rien, mais on dirait qu'ils sont quasiment vides, et puis d'autres qui sont largement remplis plus que de raison.
Oui, alors généralement ce qui se passe, c'est que le stockage va se faire au niveau de la colonie. Donc elles vont privilégier de remplir au-dessus du couvain, et après ça, s'il reste du temps, de la place, si ça continue à mieler, elles partent sur les rives.
Alors on voit qu'il y a encore quelques abeilles, malgré le chasse-abeilles, certaines ont fait un peu de la résistance.
Oui, c'est ça. Alors tout le monde est descendu, sauf que celles-là, elles sont pas descendues si rapidement que les autres. Elles se sont blotties pour dire de continuer à avoir chaud et sans trouver là où leur consoeur était passée. Quand on voit qu'il en reste quelques-unes comme ça, on peut les secouer. Après, au moment du transport, entre le chargement, le déchargement, on en perd quelques-unes, et c'est sûr que oui, dans la miellerie, même avec un chasse-abeille, on va tout le temps ramener une petite quantité, même si c'est 4 ou 5 par os multiplié par le nombre de os, oui, ça peut vite faire une petite population à la miellerie.
Effectivement, ça risque de nous amener un petit peu de compagnie dans notre prochain rendez-vous. C'est aussi un peu sport, hein, parce qu'on le voit, c'est rempli de miel, ça veut dire que ça pèse lourd, et quand on multiplie par le nombre de os, c'est quelque chose de relativement important.
Oui, c'est ça. Donc là, on est sur des os qui peuvent atteindre 10-15 kilos. Oui, multiplié par le nombre de os, plus le moment de le chargement, le déchargement, et après de repasser au moment de l'extraction. Donc le miel, oui, on le porte pas mal de fois.
Il n'y a pas d'abonnement à la salle de sport, donc c'est pas nécessaire.
Non, pas en pleine saison en tout cas.
A priori, ça va. Donc là, on va donc récupérer ces cadres pour ensuite les regrouper.
Voilà, donc là, la hausse, donc on peut l'enlever. Là, on a donc le chasse-abeille.
On enlève également.
Voilà, donc le chasse-abeille, vous voyez, la colonie, tout le monde est redescendu dedans.
Donc on l'a dit hier, on est encore sur des abeilles qui sont vraiment très calmes. Ça, c'était aussi le choix de l'écotype, on l'a dit en début de semaine. Mais voilà, on voit qu'on les manipule, finalement, il n'y a pas, d'énervement particulier de ces abeilles.
Hein. Non, et puis vous voyez là, l'enfumoir, il est 3 ruches plus loin. Et pourtant, la colonie est bien, bien ouverte. On voit bien les abeilles là sur la tête des cadres. On peut enlever le chasse-abeille, reposer le couvre-cadre et refermer la ruche.
Sans aucune difficulté.
C'est ça, exactement.
Donc là, maintenant, en tous les cas, on a nous récupéré ces cadres remplis de miel. La prochaine étape, c'est quoi ?
Donc, une fois qu'on a récupéré nos os avec le miel, eh bien, on va les stocker provisoirement dans la chambre chaude. Donc qui est une chambre en fait pour de tampons, qui va permettre d'attendre jusqu'au moment de l'extraction du miel.
Parce que la question qu'on vous pose le plus souvent, c'est est-ce que vous chauffez votre miel pour le récupérer, ou est-ce que ça se fait à froid ?
Non, tout est fait à froid, c'est-à-dire quitte à passer une nuit blanche, au moment où le miel est récolté des ruches,
on enquille.
On enquille, oui, c'est ça, on enquille tout de suite l'extraction, donc pour dire de pouvoir extraire sans aucun chauffage.
Et on sent que Guillaume est déjà projeté dans notre rendez-vous de demain, où il va falloir extraire, et nous assisterons à cette nouvelle étape, évidemment, dans l'avant-dernier épisode de cette semaine consacrée à l'apiculture.
Oui, une bonne nuit de repos et à demain.
Et notre quatrième avant-dernier rendez-vous à la découverte de l'apiculture et de ce métier d'apiculteur que nous fait partager depuis le début de la semaine Guillaume Guilbert. Je rappelle que nous sommes à la Jonchère Saint-Maurice. Alors, les étapes avancent les unes après les autres. On a parlé de la mise en place des élevages, des captures de rennes. On a parlé de cette collecte du miel, la récolte de ces cadres dans le rendez-vous d'hier. Et là, on va passer à l'une des dernières phases. C'est évidemment l'extraction du miel qui est donc dans ces cadres. Ça se passe ici. Donc, c'est quoi? On appelle ça le labo?
Oui, la miellerie, simplement. Donc, l'endroit vraiment où on extrait le miel. Donc, on a récolté les os avec le miel. On les stocke en chambre chaude. À partir de là, faut extraire le plus rapidement possible pour qu'il n'y ait pas de cristallisation du miel. Donc,
c'est ce qu'on va faire maintenant.
Donc là, maintenant, on va extraire l'or liquide. Donc avec la phase, donc avec la chaîne d'extraction. Donc tout d'abord, on va désoperculer.
Ça se passe sur cette petite ligne là.
C'est ça. Donc là, c'est un système de couteau qui passe le long du cadre pour enlever justement l'opercule de protection. Donc le but, c'est que le miel à la récolte soit operculé, c'est-à-dire qu'il est à la bonne beau taux d'humidité, donc normalement inférieur à 21%, donc on pourra le vérifier après au réfractomètre. Quand les abeilles l'ont operculé, c'est qu'elles ont estimé que normalement le taux d'humidité, il est bon pour le stockage. Donc là, il va falloir enlever cette opercule, et une fois que cet opercule et ces opercules sont enlevés, on pourra extraire le miel. Donc étant donné qu'il est encore à température des ruches, il va pouvoir s'extraire facilement. C'est pour ça, si on attend trop longtemps, il va y avoir cristallisation du miel dans les rayons, et là c'est un peu impossible.
Voilà. Faut le ressentir. Ouais.
Ben c'est ça où il faut utiliser une picoteuse, quoi, qui est utilisée par exemple pour le miel de calune.
Alors on va justement pas traîner, puisque je vois que effectivement tout est quasiment fin prêt, donc pour démarrer les machines, voilà derrière nous, on les entend. Donc là, on passe. Donc ça, ce qu'on entend, c'est la fameuse machine qui va permettre de désoperculer.
La désoperculeuse. Donc là, voilà. On vient placer le cadre sur les guides. Et le travail se fait tout seul. Voilà, et en passant de l'autre côté, vous pourrez voir qu'il n'y a plus aucune opercule sur le cadre. Et le miel commence à couler, donc après ça, on passe à la phase suivante, c'est-à-dire l'extraction du miel.
Alors, faut pas trop attendre parce que ça cristallise, mais aussi c'est en train de couler, donc le but, c'est d'en garder un maximum dans le cadre pour passer à la phase suivante.
Ça, mais de toute manière, c'est récupéré sur les bacs récupérateurs.
On ne perd rien, on n'est pas fou.
Exactement.
Donc là, pour l'instant, voilà, ça va de l'autre côté de la chaîne, effectivement, où tout est en train de sortir désoperculé, et ensuite, donc, on va pouvoir placer. Donc ces cadres, on en place combien? Parce qu'on a une machine qui permet d'en traiter un bon paquet en même temps.
Le bon collecte, là, le bon compromis, c'est 44 cadres. Hein. Bon, ça a été un peu le choix pour dire de pouvoir une personne pouvoir gérer aussi seule la chaîne d'extraction. Après, bien sûr, si on est deux, là, ça tourne encore plus vite. Mais 44, le temps de pouvoir désoperculer, de re-remplir. Ça sert à rien d'avoir un extracteur plus grand.
Et pendant qu'on est en train d'installer ces cadres avant de passer à la phase suivante, la question c'est qu'on voit que ces abeilles là, elles sont un peu plus agitées, elles sont plus nerveuses.
Oui, là, surtout, bon, celles qui sont arrivées ici sont un peu perdues. Donc tout ce qu'elles cherchent, elles cherchent à retourner à leur ruche qui n'est pas là présente ici autour. Donc, et en plus, elles sont confinées dans le local. Donc ça peut un peu les agacer. Après, bon, normalement, il n'y a pas trop de piqûres en miellerie.
Voilà. Mais qui est inhérente au métier, donc aux actions menées. Donc voilà, on va passer maintenant à la phase suivante, ces cadres, qu'on va donc faire passer dans la machine qui s'appelle...
Un extracteur.
Tout simplement. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Alors, allons-y. On va pouvoir donc mettre en action cette nouvelle phase pour véritablement, cette fois-ci, extraire ce miel avant qu'il puisse arriver jusqu'au consommateur.
Donc voilà, donc les cadres sont mis dans l'extracteur. Ah, c'est ça.
On met en route la machine.
Oui, donc ça va se mettre... là, il y a un système pour d'équilibrage électronique qui va permettre de tarer vraiment l'extracteur pour pas qu'il y ait de balourd. Le fait de lancer l'extraction progressivement, ça permet de commencer à extraire le miel pour que la masse soit identique sur le carrousel.
Alors ça, c'est un... ça tourne, ça va tourner pendant combien de temps pour extraire donc de ces 44 cadres si on est au complet?
Ouais, il faut compter à peu près, ça dépend le type de miel, on peut aller de 7-8 minutes quoi.
Donc, c'est parce qu'il y a des miels qui sont plus denses que d'autres, qui vont avoir du mal, un peu plus de mal à sortir des différents cadres.
C'est ça, et puis la température, il suffit qu'on ait attendu une journée ou deux, parce qu'on a été pris sur les ruches, et là, la température du miel va diminuer, la viscosité va augmenter, donc ça va mettre un peu plus de temps pour sortir des rayons.
Alors, donc là, concrètement, ça veut dire que ça sort et ça tombe quoi? Ça tombe au fond de la cuve?
Non, alors... ça vient se plaquer, donc force centrifuge, ça va venir se plaquer là contre la paroi. Vous pouvez le voir, là ça brille.
Ah oui, on voit que c'est projeté effectivement sur les parois.
Donc là, à partir du moment où on voit qu'il n'y a plus de projection, donc il n'y a plus de miel au niveau des rayons. Donc voilà, donc ce qui fait que là, le miel, il est extrait. Une fois qu'il est extrait d'un système de robinet, ça passe après dans le bac, dans un bac décanteur. Là, on voit, c'est en train de buller. Là, le miel est en train de sortir dans le bac. Il y a un système de chicane pour justement. Là, on voit que d'un côté, il y a encore des opercules. Ouais. Arrivé à la fin, le miel est quasiment propre. Donc, en passant sous ces chicanes, la cire est plus légère. C'est un hydrocarbure, donc est plus légère que le miel. Le miel passera par le dessous. La cire remonte en surface. De là, sur la dernière partie du bac décanteur, le miel est quasi propre, sera pompé, et de là, stocké en fût. Mais avant d'être stocké en fût, passera par un filtre.
Un filtre quand même de très nombreuses fois pour vraiment avoir un produit absolument, absolument pur.
Mais la filtration, là c'est un système de décantage, et après on a la filtration qui n'est pas obligatoire. Après, il y en a qui le font pas, il y en a qui le font au moment de la mise en pot, donc... voilà.
Là, donc, on va laisser évidemment l'extraction se faire. Hein. On a vu effectivement les choses d'un bout à l'autre. On n'a pas dit combien de kilos, on parle en quoi, en kilos sur une extraction comme ça de 44 cadres.
Si les cadres sont complètement remplis, 44 cadres, on peut estimer ça va faire jusque 400 kilos par tournée quoi.
Et donc on va laisser les choses s'extraire. On se retrouvera dans le dernier rendez-vous pour voir un petit peu bien ce que l'on peut faire de ce miel. Bien sûr, il va être mis en pot, mais c'est pas que ça. C'est ce que nous verrons ensemble dans notre dernier rendez-vous de la semaine demain. Et c'est déjà notre cinquième et dernier rendez-vous à la découverte de l'apiculture et du métier d'apiculteur. Nous avons passé une semaine avec les abeilles, mais aussi avec Guillaume Gilbert, installé ici à la Jonchère Saint-Maurice depuis 2011. On a découvert cette chaîne de production du miel et ce travail incroyable et énorme qu'il faut pour arriver jusqu'à ce petit pot de miel qui nous paraît tellement anodin et tellement simple finalement quand on a juste à l'ouvrir et à y plonger la cuillère. Mais aussi beaucoup de choses que l'on peut faire avec le miel d'une manière générale. D'abord, je dis le miel, mais on va dire les miels. On va peut-être revenir simplement un instant sur les différents types de miel que l'on peut obtenir. Ils sont très nombreux, il y en a vraiment pour tous les goûts.
Oui, il y en a pour tous les goûts. Bon, là, sur l'exploitation, on arrive donc à avoir différents types de miel. Donc le robinier, plus connu sous le nom du faux acacia. Après, on a la bourdaine, donc typique ici du Limousin et des Landes. Après on partira sur un miel de montagne qui est plutôt typé ronce. On aura le forêt qui sera en fin de bouche avec du châtaignier, donc un peu plus amer, et du tournesol. Donc là ça laisse une gamme correcte pour des goûts vraiment qui peuvent être assez, assez différents. Donc,
on demande conseil à l'apiculteur, c'est quand même le plus simple, il saura vous aiguiller.
Oui, et puis ça permet un peu la resociabilisation de l'apiculteur, de l'exploitant.
Qui est un peu seul tout le temps pour ce travail-là.
C'est ça, donc le fait de faire les marchés, revoir un peu de monde, rediscuter, et de savoir un peu ce qui se passe autour de nous. Quoi.
Donc c'est valable sur les marchés, on peut aussi citer que le miel d'ici, on le trouve à l'office de tourisme, par exemple, notamment à Ambazac, donc on peut découvrir... vos produits. Alors simplement on va parler de l'évidence, c'est la mise en pot, hein, ces pots de miel que l'on achète. Ça se passe comment ce miel qui a été purifié se retrouve donc en fût? On met pas forcément la mise en pot dans la foulée, là on a le temps de gérer les choses peut-être l'hiver quand on a moins de travail sur l'exploitation en elle-même.
Ouais, là ça sera plutôt on va dire sur l'automne pour dire d'avoir une décantation dans les fûts, donc c'est-à-dire que les impuretés puissent encore remonter pour après pouvoir soutirer assez vite. justement pas avoir besoin de réchauffer le miel et de faire la mise en pot.
Voilà, il faut laisser le temps au produit d'atteindre sa meilleure qualité.
C'est ça, comme un bon vin.
Donc il y a la mise en pot, et puis il y a d'autres choses également que vous réalisez d'ailleurs ici même sur l'exploitation.
Oui, quelques produits dérivés type pain d'épices, après bonbons. Mais voilà, tout ce qui est vendu et produit sur l'exploitation, on fait pas de façon. On veut mettre aussi de nos recettes jusqu'à la vente. Donc vraiment valoriser complètement le produit.
Et on peut tout faire avec du miel, parce que là on parle de bonbons, des gâteaux au miel par exemple. On peut vraiment faire mille et une choses.
C'est ça, ça va du gâteau. On peut aller jusque soigner des plaies, puisque bon, que ce soit des brûlures ou des ulcères de la peau. On en a la preuve tous les ans, hein, chaque récolte de miel, c'est que...
Quand on vous voit faire hier dans l'épisode, on en a un peu plein les mains évidemment, et on se rend compte qu'à la fin du travail, on a les mains dans un état magnifique.
Oui, on récupère une peau de bébé. Hein. Donc le côté réhydratant, aussi bien avant on a la corne, bout des doigts, et puis les doigts très secs, et une fois que les extractions arrivent, on a le miel qui nous guérit et qui nous prépare à repartir sur l'automne pour faire autre chose.
Donc c'est validé par l'apiculteur et confirmé par l'apiculteur.
Ah oui, il n'y a aucun souci là-dessus.
Vos projets, c'est quoi? C'est ici à la Jonchère de proposer un espace où on va pouvoir voir un petit peu quand on fait la mise en pot par exemple, et du coup de repartir avec quelques-uns de vos produits.
Ça oui, le but c'est de faire une exploitation vivante, dans le sens où les gens, via entre autres l'office de tourisme d'Ambazac, de pouvoir venir sur l'exploitation pour découvrir le métier et de voir un peu les différentes phases d'une saison, en allant de la capture des rennes à la mise en pot, toujours la possibilité de la dégustation.
Tout ce que l'on a fait cette semaine en accéléré, on pourra le faire sans doute dans les années qui viennent. C'est votre volonté en tout cas, et c'est quoi? C'est de transmettre aussi votre savoir aux jeunes générations, pour pourquoi pas créer quelques vocations de jeunes apiculteurs.
Pourquoi pas, oui, c'est vrai que tous les ans, bien sûr, il y a des gens qui viennent sur l'exploitation pour suivre une saison. C'est aussi pour faire découvrir aux gens qu'est-ce que le métier d'apiculteur, parce que c'est vrai que c'est un métier un peu méconnu, puisque la journée on est caché dans nos ruchers, donc dans les bois ou les sous-bois, et la nuit on est sur les routes avec nos ruches, donc les gens nous voient très peu, en tout cas. Imagine le côté les cosmonautes, le miel, et après on sait pas trop, donc
et on a combattu beaucoup d'idées reçues, puisqu'on ne s'est pas habillé en cosmonaute en l'occurrence pour cette semaine. Le miel, on va nous vous laisser continuer de le travailler pour pouvoir l'offrir au public limousin. Bon courage, et puis on se dit donc à bientôt.
Oui, à bientôt, merci beaucoup.